Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Une universitaire franco-iranienne emprisonnée en Iran, Téhéran ne donne pas d'explication. Fariba Adelkhan n'est pas la première binationale à subir le même sort, nous dira dans ce journal Nathanaël Charbonnier. Une claque à l'idée selon laquelle l'humanité progresse, une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée selon le rapport annuel des Nations Unies sur l'état de la faim dans le monde, un rapport lu pour nous par Valérie Crova. Les États-Unis donnent un tour de vis supplémentaire à leur politique d'accueil des migrants en provenance d'Amérique centrale et du Sud, correspondance de Loïc Loury. Et puis, 23 ans après le dépôt de plainte par des victimes de l'amiante, la justice française prononce le non-lieu pour les responsables de la société Eternit. Florence Turme nous dira pourquoi les juges ont tranché dans ce sens. Une franco-iranienne détenue en Iran, elle s'appelle Fariba Adelkhan. Elle est anthropologue, chercheuse au Centre de Recherche International de Sciences Po. Elle est arrivée en France il y a plus de 40 ans, en 1977, pour ses études. Elle serait en ce moment derrière les barreaux depuis le début en fait du mois de juin. Le Quai d'Orsay ne l'a confirmé qu'aujourd'hui, sans préciser depuis combien de temps elle est retenue par les autorités de Téhéran et ce que celles-ci d'ailleurs lui reprochent exactement. Il est difficile de ne pas penser que cette détention est à voir avec le contexte de tensions diplomatiques grandissantes sur fond de remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien. Quoi qu'il en soit, Nathanaël Charbonnier, le régime des Mollahs semble coutumier des faits.
Il existe un point commun entre ces prisonniers, tous possèdent une double nationalité. Ils seraient une dizaine dans le même cas si l'on en croit certaines ONG des droits de l'homme. La chercheuse Fariba Adelkhan, pour laquelle les autorités françaises se mobilisent, est franco-iranienne. Mais l'on pourrait parler aussi de Nazanin Radcliffe. Cette femme de 41 ans a été arrêtée en 2016 alors qu'elle travaillait pour une association humanitaire. Depuis, elle est emprisonnée pour complot contre le régime. Elle a commencé une grève de la faim il y a quelques semaines pour se faire entendre. Particularité, elle est britanno-iranienne. D'autres histoires similaires existent. Elles concernent par exemple une enseignante irano-canadienne ou encore un citoyen irano-américain. Une double nationalité qui se transforme en vrai handicap pour ces hommes et ces femmes, puisqu'une fois sur le sol iranien, ces personnes deviennent iraniennes, sont traitées comme telles et doivent répondre aux lois de leur pays. Cela rend plus compliqué les pressions pour les faire libérer, mais cela reste pour le régime des Mollahs une excellente monnaie d'échange lorsqu'il s'agit de faire monter les enchères diplomatiques.
En déplacement en Serbie, Emmanuel Macron a réagi à cette arrestation. Il a demandé des clarifications à son homologue iranien Hassan Rouhani. La France continue d'ailleurs de jouer les médiateurs entre l'Iran, les États-Unis et l'URSS pour éviter toute escalade dans le dossier de l'accord sur le nucléaire iranien. En déplacement à Belgrade, donc, Emmanuel Macron a déclaré qu'il aurait cette semaine des entretiens avec le président Rouhani et ses homologues Donald Trump et Vladimir Poutine. Contrairement à une idée reçue, la faim dans le monde continue de progresser. Une tendance à la hausse enregistrée depuis 4 ans maintenant, après des décennies de baisse. L'an dernier, 821 millions de personnes dans le monde souffraient de sous-alimentation. Un constat alarmant, bien sûr, dressé dans leur dernier rapport annuel par plusieurs organisations des Nations Unies, dont le Programme Alimentaire Mondial. Valérie Crova.
On est encore loin de l'objectif faim zéro censé être atteint en 2030. L'an dernier, une personne sur neuf était sous-alimentée de par le monde. La situation est particulièrement alarmante en Afrique, où la prévalence de la faim est repartie à la hausse. Elle touche aujourd'hui 20% de la population. La malnutrition ne cesse de gagner du terrain également en Asie, où plus de 12% de la population vit aujourd'hui en situation de sous-alimentation. Près d'un enfant sur 10 est concerné sur le continent asiatique et en Océanie. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la faim, quel que soit le continent. Les femmes en sont plus souvent victimes. Les plus grands écarts s'observent en Amérique latine. Cette année, le rapport sur la faim dans le monde met l'accent sur les crises financières et les tensions commerciales qui contribuent à aggraver les crises alimentaires. Ainsi, la faim progresse dans de nombreux pays où l'activité économique a ralenti ou s'est contractée. Là encore, c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand nombre de pays où l'augmentation de la sous-alimentation s'est produite en même temps que l'économie ralentissait. Viennent ensuite l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et le rapport d'alerte sur la dégradation de la conjoncture économique qui pourrait conduire à une progression de la pauvreté et des inégalités et risquerait d'entraver les efforts déployés pour venir à bout de la faim.
Et selon le même rapport, c'est un paradoxe d'ailleurs, la surcharge pondérale et l'obésité continuent d'augmenter dans toutes les régions du monde, en particulier chez les enfants d'âge scolaire et les adultes. Le Mexique. Le Mexique a réagi le premier à la décision de Washington, annoncée aujourd'hui, de verrouiller l'accès à l'asile, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce durcissement de la part des États-Unis et qu'il allait être très vigilant sur le respect du principe de non-refoulement, conformément, dit-il, au droit international. Dès demain, les demandes formulées à la frontière sud des États-Unis seront refusées à tout migrant n'ayant pas réclamé au préalable, Loïc Loury, la protection d'un pays tiers.
Les États-Unis sont généreux mais complètement débordés. Voilà la raison avancée par le ministre de la Justice pour expliquer la mise en place de cette nouvelle règle. Objectif, selon Bill Barr, décourager les migrants économiques qui veulent exploiter, dit-il, notre système d'asile. Et de fait, cette législation est particulièrement restrictive et marque un pas de plus dans la guerre menée par Donald Trump contre l'immigration venue du Sud. Sur le papier, chaque migrant arrivé à cette frontière ne pourra plus demander l'asile aux États-Unis après être passé par un pays tiers, en particulier le Mexique. Le texte concerne également les enfants seuls et ne comprend que quelques exceptions, notamment pour ceux dont la demande d'asile a été rejetée par les pays traversés. Il faut dire que chaque mois, des dizaines de milliers de familles venues d'Amérique centrale arrivent aux États-Unis. Ce rythme a diminué suite à un accord avec le Mexique, mais les tribunaux ont 800 000 demandes d'asile de retard à examiner. La nouvelle loi, toutefois, devrait être attaquée devant les tribunaux. Elle n'est pas conforme aux droits selon l'ACLU, une puissante association garante des libertés. Jusque-là, les politiques mises en place par Donald Trump, sa rhétorique toujours plus dure, n'ont pas empêché des milliers de migrants de prendre la route des États-Unis.
Loïc Loury à New York. Donald Trump s'est encore fendu d'un tweet dont il a le secret, visant quatre élus démocrates qui l'accusent d'aimer les ennemis de l'Amérique et à qui il conseille d'ailleurs de partir si elles n'aiment pas leur pays. Ce sont des femmes. Le sénateur noir Tim Scott, républicain comme le président, condamne ses propos à connotation raciste et selon lui, inacceptable de la part de Donald Trump. Lors de sa conférence de presse à Belgrade, en Serbie, Emmanuel Macron a été interrogé également sur François de Rugy, le numéro 2 du gouvernement. Il met en garde contre la république de la délation et refuse de prendre, je cite, des décisions sur la base de révélations et non de faits. Le ministre de l'écologie risque d'ailleurs de passer un très mauvais quart d'heure demain, mardi, lors des séances de questions au gouvernement. 23 ans après le dépôt des premières plaintes par des victimes de l'amiante en France, la justice vient de prononcer le non-lieu pour les responsables de la société Eternit, mise en examen pour homicides et blessures involontaires. En 1997, l'amiante était d'ailleurs interdite à cause de son caractère hautement cancérigène. Ce non-lieu si tardif, Florence Turm, confirme d'autres décisions judiciaires dans le même sens, mais d'une certaine manière, elle enfonce le clou.
Ce n'est pas la première décision de non-lieu rendue dans un dossier de l'amiante. Les juges du pôle santé publique de Paris ont déjà conclu dans le même sens pour EDF, Saint-Gobain, les chantiers navals et charbonnages de France. Mais le cas d'Eternit reste particulièrement symbolique. Il s'agissait du premier producteur français d'amiante ciment dans les années 90, le premier visé par une plainte pour homicide et blessures involontaires par d'anciens salariés. 23 ans plus tard, les magistrats justifient leur décision par deux arguments principaux. Aucune faute de nature pénale ne peut être imputée à des personnes physiques ou morales en lien avec la société, écrivent-ils. Par ailleurs, il est impossible de dater l'intoxication des plaignants. On ne peut donc pas déterminer quels étaient les responsables en poste et les réglementations en vigueur à cette date inconnue. Un argument que conteste l'Association des victimes de l'amiante et autres polluants comme une erreur majeure d'interprétation des données scientifiques. Pour l'AVA, c'est l'exposition dans son entier qui contribue à la maladie. L'association compte faire appel de ce non-lieu. Elle a également lancé une autre initiative judiciaire. Ses avocats vont déposer en septembre une citation directe visant les responsables nationaux de l'amiante. Procédure très rare dans ce type de dossier particulièrement complexe, mais qui permettrait pour le millier de victimes qui va s'y associer de contourner ces décisions de non-lieu et d'organiser le procès pénal qu'elle réclame depuis des années.
Les explications de Florence Turm. En 2012, ajoutons que les autorités sanitaires estimaient que l'amiante pourrait provoquer d'ici à 2025 3000 décès chaque année causés par des cancers de la plèvre ou des cancers bronchopulmonaires. Le parquet de Paris fait appel dans l'affaire du meurtre de Sarah Halimi, cette femme juive âgée de 63 ans, rouée de coups en 2017 à Paris et jetée du troisième étage par le suspect Kobili Traoré. Dans leur ordonnance rendue vendredi dernier, les juges d'instruction estimaient plausible l'abolition du discernement du suspect au moment des faits, ce qui le rendrait bien sûr pénalement irresponsable, alors que le parquet de Paris avait réclamé le 17 juin son renvoi devant une cour d'assises pour homicide volontaire à caractère antisémite. suite. On termine avec la tendance météo, bien sûr, comme la tradition le veut. Pour demain, retour au calme, y compris en Corse. Le bleu dominera en dépit d'inoffensifs passages nuageux. Température minimale entre 8 et 22 degrés, maximale entre 22 au nord et 33 au sud. Fin de cette édition, réalisée avec Annie Brault. Excellente fin de soirée.